Mémoire vive. Et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alexandre Westphal, réalisateur, et Violaine Baraduc, réalisatrice et doctorante en anthropologie et boursière de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, vous travaillez depuis plusieurs années sur la participation des femmes au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et vous avez donc dans ce cadre réalisé un film avec Alexandre Westphal, à mots couverts, un film qui a été très remarqué puisqu'il a reçu en 2015 le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire. Des projections sont prévues pour le mois de février, on en reparlera en fin d'émission. Mais tout d'abord, on va peut-être présenter ce film qui met en scène 8 femmes qui purgent une peine pour crime de génocide à la prison de Kigali et qui témoignent lors d'ateliers collectifs ou d'entretiens individuels. Elles parlent de leur implication dans le génocide, elles parlent également de leur engagement politique ou des raisons qui les ont poussées à participer au massacre. Et ces témoignages sont mis en regard avec ceux de leurs proches, de leur famille ou de leurs anciens voisins, confrontant ainsi les versions et les souvenirs et mettant en lumière les failles et les dénis. C'est-à-dire que vous avez donné la parole à ces femmes, mais qu'il était aussi important pour vous d'apporter un contrepoint à leur récit, Violaine Baraduc.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le film repose sur deux trames narratives. D'une part, le récit du génocide depuis les trajectoires de ces 8 femmes en 94, et d'autre part, la tentative de réconciliation qui est engagée par une de ces femmes avec son fils Jérôme. Et pour nous, il était indispensable de trouver un contrepoint, et c'est dans la figure de Jérôme, finalement, qu'on a trouvé un contrepoint. Donc, dans le film, il y a Jérôme qui donne un écho différent à l'histoire que celui qui est apporté par ces 8 femmes, et il y a en ouverture 2 femmes rescapées qui déambulent sur une colline et qui visitent le lieu qui a été le lieu de la mort de la grand-mère de l'une de ces 2 femmes. Et on trouvait important d'ouvrir le film sur des paroles de rescapés et d'une certaine manière de créer un écho entre l'inquiétude et le besoin des rescapés de voir une histoire et une mémoire s'écrire autour de la mort et de la disparition des leurs, et en même temps d'avoir un écho présent de cette histoire dans la bouche d'un jeune homme et la façon dont le génocide s'inscrit à la fois à l'intérieur de la société et à l'intérieur des familles.
L'une des personnalités les plus complexes, la plus présente également tout au long du film, c'est Immaculée, dont vous parliez, Violaine Baraduc, qui s'avère au fil du film être une tueuse particulièrement redoutable, d'après les mots mêmes de son fils, Alexandre Westphal.
Oui, alors Immaculée, c'est un personnage assez complexe, du moins telle qu'elle apparaît dans le film, et je pense telle qu'elle est réellement, elle est prise, comme Violaine l'a rappelé, dans cette relation qu'elle essaye de renouer avec son fils. Elle est prise dans une dynamique assez particulière et assez singulière, je pense, dans le groupe, et qui explique aussi qu'elle a un rapport à la parole assez différent des autres femmes du groupe, qu'elle se confie plus, qu'elle parle plus, qu'elle impulse des fois une dynamique dans toutes les séquences où le témoignage se fait en groupe, où les 8 femmes sont présentes, parce que l'enjeu pour elle, c'est aussi de tenter de rétablir un contact avec son fils qui est resté à l'extérieur de la prison. Et effectivement, il y en a plusieurs dans le groupe qui ont des peines très lourdes pour des crimes de sang assez importants, mais effectivement, elle fait partie, elle, de celles qui ont été condamnées lourdement parce qu'elle a été très très impliquée dans les massacres.
Et vous avez choisi d'axer ce film sur ce dialogue également, hein, entre la mère et le fils, dans une tentative de réconciliation entre la mère génocidaire et le fils qui est manifestement issu d'une relation... enfin, qui est à moitié ou tout moitié Tutsi. Cette réconciliation impossible entre la mère et le fils, ça a une signification plus large à vos yeux? En tout cas, c'était une symbolique que vous vouliez...
Je ne sais pas. Je pense que c'est des choses qu'on n'a pas anticipées, notamment parce que, bon, d'une part, au moment où on a écrit le film dans sa première version, avant d'entreprendre le tournage, donc la première version du film date de 2011. Bon, évidemment, vous savez, quand il s'agit d'un documentaire, on trace des lignes, on, on, On élabore un sujet, on essaie de définir un point de vue, mais évidemment, tout se fait aussi sur le terrain. Et on n'avait absolument pas anticipé la rencontre avec Jérôme. Ça a été le fait d'un... pas d'un hasard, parce qu'on avait effectivement le projet de sortir le film et le spectateur de l'espace de la prison et de toute manière de construire la relation avec les détenus à partir d'une interaction avec l'extérieur de la prison. Tout le projet qu'on avait écrit initialement consistait à écrire et à tisser un lien, à renouer un lien qui serait finalement un lien historique entre les détenus et leur famille, leur voisinage, en leur rapportant des images de l'extérieur à l'intérieur et en leur faisant commenter ces images. Et au moment où on a élaboré ce projet, les détenus ont tout de suite réagi, et en particulier Immaculée, en disant qu'on pouvait tout à fait essayer d'installer ce projet, mais qu'on risquait de rencontrer des difficultés parce que son fils Jérôme la détestait et refuserait absolument de la rencontrer, de la revoir. Et là, est venue l'idée des messages vidéo. Donc finalement, on n'avait absolument pas anticipé cette rencontre avec Jérôme. Et effectivement, non. Donc au moment où on a rencontré Jérôme, on a tout de suite décidé d'en faire le symbole du film, mais on ne pensait pas non plus investir le film d'une charge mémorielle plus lourde qui s'appliquerait à l'ensemble des familles rwandaises. Et effectivement, ce que je voulais préciser, c'était mon deuxième tiroir, c'est que Jérôme, au départ... Enfin, tout au long du projet, c'est quand même le film s'est étendu sur à peu près 2 ans de tournage et on a travaillé environ 7 mois au Rwanda, donc notamment aux côtés de Jérôme. Il s'est souvent posé la question de savoir quelle était véritablement notre place et si on avait une volonté d'action dans sa vie. Enfin, c'est vrai qu'on s'est immiscé dans leur vie et il s'inquiétait de savoir si on aurait la volonté finalement de le réconcilier avec sa mère. Et ça n'a jamais été notre projet, donc... La fin du film évoque l'idée d'une réconciliation impossible, mais qui est quand même mesurée et nuancée par Jérôme, qui lui accorde un pardon. Donc, je dirais pas que c'est impossible.
Ce qui est impossible. C'est pas le terme, en tout cas.
Mais c'est pas un mauvais terme, mais je pense que c'est en tout cas.
Du coup, je m'éloigne un peu peut-être de ce que tu dis, mais en termes de signification, disons que pour nous, dans la relation entre Immaculée et Jérôme. Au-delà de la question du pardon, qui était aussi assez très centrale, quoi, il y avait aussi la question de la transmission de la faute au sein même des familles et des parents sur les enfants, et la difficulté qu'avaient les enfants de génocidaires. Alors, le cas de Jérôme se pose encore plus, puisqu'il est issu d'un couple mixte, mais à vivre avec la faute de leurs parents et comment la porter dans la société, est-ce qu'on peut s'éloigner de cette charge-là ou pas, et toute la trajectoire de Jérôme et sa difficulté justement à trouver une place dans l'endroit où il vit, la communauté à laquelle il appartient, qui le distingue de la trajectoire de sa mère, était aussi pour nous un moyen de poser cette question-là de la transmission de la faute, et qui du coup aussi posait de façon assez différente celle du pardon et de la possibilité de pardonner, puisqu'on porte soi-même la faute d'un autre. Quoi.
Comment vous les avez... choisi justement ces femmes, est-ce que c'était chacune à leur mesure dans leur implication dans le génocide en fonction de leur origine sociale? L'une d'elles, je crois que c'est Françoise, qui vient d'un milieu manifestement très pauvre et qui justifie d'une certaine manière son implication par une volonté d'ascension sociale.
Alors, en fait, le groupe a été constitué en 2 étapes. La première étape, ça a été celle d'un premier terrain d'enquête au Rwanda que j'ai mené, moi, dans le cadre de mon mémoire de master en 2009. Et à ce moment-là, j'avais rencontré des détenus qui m'avaient été suggérés, dont les noms m'avaient été transmis par l'administration carcérale. Je le précise parce que je pense que c'est quand même un élément très important. Et j'avais rencontré, je pense, une petite quinzaine de détenus à l'époque. Et au moment où on a repris l'écriture du film avec Alexandre, on est reparti de ce... Je ne travaillais pas en groupe à l'époque, hein, je ne faisais que des entretiens individuels. On a repris les trajectoires de chacune d'entre elles et réfléchi à la création d'un groupe dont la cohésion serait bonne. Et aussi avec des profils pas tellement... bien sûr avec des profils sociaux qui permettraient de représenter la société rwandaise d'une certaine manière. Bon, même si bien la prison centrale de Kigali est une prison citadine, donc qui n'est pas représentative de... Je pense que le public de cette prison n'est pas représentatif du public de la totalité des prisons du Rwanda. Donc on s'est aussi interrogé sur la place que chacune d'entre elles occupait dans l'espace de la prison et les relations de pouvoir dans lesquelles elles pouvaient être engagées. Voilà, c'est à partir de cette base-là qu'on a constitué le groupe.
Parce qu'on sent, même parmi celles qui semblent vouloir assumer leurs responsabilités, en tout cas, qu'elles sont très promptes à rejeter la faute soit sur les politiques, soit sur les médias, soit même entre elles. Notamment, il y a cette scène incroyable avec Valérie Bemeriki, qui est l'ex-animatrice vedette de la radio Mille Collines.
Une des choses, je crois qu'aussi, ce qu'on cherchait à mettre en avant, et vous l'avez très bien dit dans votre introduction, c'était aussi la façon dont la parole des bourreaux se met en scène, se déploie, et le rapport qu'eux-mêmes entretiennent avec leur passé, quoi. Et d'une certaine manière, il s'agissait aussi de mettre en scène les résistances, le déni, notamment la tentation toujours très présente de se disculper, de rejeter la faute sur un autre, de hiérarchiser les responsabilités en se plaçant bien sûr soi-même tout en bas de l'échelle, si possible. Et ça, pour nous, le fait de les prendre en groupe, c'était important aussi parce que non seulement ça faisait circuler la parole, mais ça leur permettait aussi de se positionner les unes par rapport aux autres. Alors parfois en jouant des relations de pouvoir qui sont encore présentes au sein de la prison, les détenus n'ayant pas toujours la même place dans la prison en fonction des crimes pour lesquels ils ont été incarcérés, de leur place avant leur incarcération dans les sociétés rwandaises, etc. Mais c'était important aussi de montrer que toutes les tentations qu'elles peuvent avoir de biaiser avec la vérité, de présenter les choses sous un jour un peu différent parfois.
D'aménager la mémoire, voilà. En fait, d'aménager les récits, je pense que...
Ouais. Et de construire du coup une mémoire un peu...
Vous avez pu voir justement au fil de ces rencontres, vous disiez que le tournage avait duré longtemps. Est-ce que au fil de vos rencontres, vous avez le sentiment que la mémoire du génocide se reconstruit peu à peu?
Dans l'espace de la prison, disons qu'il y a une mémoire du génocide qui s'écrit et qui, je pense, est une mémoire qui ne peut pas cohabiter avec celle des rescapés. C'est-à-dire, vous le disiez très bien à l'instant, il y a une volonté de se disculper pour une raison, enfin, je tiens à ajouter à ça qu'il y a, je crois, une vraie difficulté pour les bourreaux de vivre avec cette mémoire. Nous, on nous a plusieurs fois fait le récit des nuits de cauchemars dans la prison, les premières années, donc à partir de 97 jusqu'au début des années 2000, des hurlements poussés par les génocidaires, en tout cas, le récit nous avait été fait pour le bloc des hommes. Et je crois que pour les femmes aussi, il y a une forme de culpabilité qui ne se traduit pas par des aveux de façon systématique, mais une culpabilité sourde. Et effectivement, je...
En voyant le film, le film débute donc sur le témoignage de la mort de cette grand-mère. Et au fur et à mesure, donc, on apprend que cette femme a été tuée en 2009 par une des personnes qu'on va voir ensuite. La coupable a avoué il y a 2009 avoir tué cette grand-mère, et finalement, quand elle a oublié, ou en tout cas elle pense que c'est un militaire qui l'a tuée. Enfin, on voit vraiment à l'œuvre comment est-ce que c'est du déni, est-ce que c'est insoutenable pour elle de l'avouer face à la caméra, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'est en quelques années qui s'est évanoui presque du récit, en tout cas.
Moi, je pense qu'il s'agit effectivement de déni. Et ce qu'on a engagé pour le film, donc les relations avec les familles, mais aussi à l'égard de l'administration carcérale et de la société plus généralement, les détenus ont utilisé le film comme un moyen de reprendre contact avec l'extérieur. Et se disculper, continuer à se disculper, c'était important pour elles. Donc je pense que ça explique ce revirement dans le témoignage. Et bon, je pense que c'est aussi la question de cette difficile cohabitation avec cette culpabilité. Donc il y a des moments où on se retourne, on change de discours, en fonction de l'interlocuteur, du moment, on adapte le discours, on l'aménage. Donc la mémoire qui s'élabore, elle est mobile, je crois.
Parce que dans le cas d'Immaculée, par exemple, on a l'impression au début du film qu'elle est prête, que sa volonté est d'assumer entièrement sa responsabilité. Ça évolue.
Mais ça évolue. Mais par exemple, pour rebondir sur ce que disait Violaine, il y a des choses, qui sont dissibles, si on veut dire. Et puis il y a quand même dans cette trajectoire... cette trajectoire de l'aveu, un moment où ça bloque en fait. Et par exemple pour Immaculée, il y a une séquence dans laquelle on lui a fait dessiner au sol le plan du dispensaire dans lequel elle a vécu au début du génocide en tout cas. Et l'idée c'était de lui permettre de reconstituer un peu une espèce de carte de cet endroit pour reconstituer une mémoire un peu moins fragmentaire que celle dans laquelle elle nous introduisait à chaque fois qu'on essayait d'aborder ce moment-là. Et donc ça a très bien marché au début jusqu'au moment où il a fallu, alors c'est dans le film parce que ça reste un moment qui nous semble important dans ce processus-là, mais parler de la mort de deux enfants qui ont été enterrés vivants dans ce dispensaire. Et quand elle en parle, elle se met toujours à côté de l'événement en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a vu plus ou moins. Mais elle se projette comme, enfin elle se présente à nous comme spectatrice, donc voilà, et pas comme co-auteur de cet événement-là. Alors que il est vraisemblable qu'en tout cas si elle y a pas, qu'elle y ait au moins assisté en fait. Et là moi j'ai eu l'impression qu'on a touché un endroit où ce processus-là de ce cheminement vers l'aveu et vers la vérité d'une certaine manière de ce qu'elle avait fait bloquait en fait, et on arrivait à quelque chose de...
Mais c'est ça qui est très fort dans le film, parce que c'est-à-dire évidemment vous n'avez pas filmé les femmes qui sont sans cesse dans l'auto-justification, loin de là. C'est ça qui fait la force de ces témoignages. Il y a une autre chose évidemment capitale, c'est le fait qu'il s'agisse de femmes. Et c'est un sujet qui revient très régulièrement, notamment le fait que lors des précédents massacres, notamment en 1959, les femmes avaient, il y a dit dans le film, les femmes Hutus avaient protégé des Tutsis, les avaient cachés ou les avaient à fuir. On sait évidemment que lors du génocide de 1994, les femmes ont participé au crime, voire dénoncé ou même... cacher des victimes pour pouvoir ensuite les livrer aux militaires. Pour expliquer ce revirement, certaines de vos intervenantes évoquent l'émancipation féminine qui aurait émoussé la compassion des femmes.
Alors, vous soulevez, je pense, un point important du film, en tout cas intéressant à plusieurs points de vue. Effectivement, c'est un argument qui est souvent invoqué par les détenus, mais on n'a évidemment pas pu vérifier si celui-ci était vrai. Moi, je pense que parallèlement à l'émancipation féminine, il y a eu, à partir du moment du déclenchement de la guerre en octobre 90, une propagande active qui a particulièrement ciblé les femmes Tutsis, et qui a, je crois, offert une forme de légitimité aux femmes Hutus à participer aux violences. Et je crois que se répondent, en fait, cette propagande qui a ciblé les femmes Tutsis et l'engagement des femmes Hutus dans les violences en 1994. C'est 4 années de propagande active au cours desquelles les femmes Tutsis ont systématiquement été montrées comme des femmes qui volaient les maris des femmes Hutus, prêtes à tout pour l'accès au pouvoir... Voilà, donc je pense que ça a joué un rôle assez important dans l'implication des femmes dans le génocide.
Certaines le disent, certaines disent, mais si les femmes se sont impliquées, c'est qu'elles ont été poussées. D'une certaine manière, c'est ce que vous dites, oui. En partie, c'est-à-dire que la propagande a effectivement été...
A joué un rôle actif, et notamment cette propagande ensuite a été relayée, il me semble, hein, à la radio RTLM, et en particulier par Valérie Bemeleki, qui lançait des annonces... strictement adressées aux femmes, de s'engager elles aussi dans le génocide.
Quel discours elle a, elle, là-dessus ?
Alors, c'est difficile parce que Valérie, aujourd'hui, je pense, tente de se racheter une conduite et qu'elle a un discours changeant. On a déjà eu l'occasion de lui faire... Il y a eu une pièce de théâtre qui a été montée par Milo Rao, un metteur en scène allemand, sur la radio RTLM et qui prenait appui sur des archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc au cours du travail de préparation de cette pièce, il avait lu et dépouillé toutes les archives de Valérie, enfin toutes celles en tout cas qui ont été traitées par le TPIR. Et on a fait réécouter des extraits de ces archives lues dans la pièce à Valérie, qui ne se reconnaissait pas dans la virulence et l'agressivité des propos. Donc traiter de cette question est assez difficile aujourd'hui avec Valérie Dumont.
Ce qui est assez terrifiant, c'est quand on les entend parler voilà, de cette propagande, à la fois il y a la conscience qu'il s'agit d'une propagande, comme par exemple le fait que les femmes voulaient voler les maris, etc., etc. Et en même temps, on sent que c'est un discours. Les a priori sont toujours présents, en tout cas dans l'enceinte de la prison.
Bah, nous, on a été même surpris, en fait. Le parti pris en termes de dispositif du film, c'est donc de les faire témoigner en groupe et d'aborder le génocide, souvent de biais, pas frontalement sur la participation de tel ou tel, mais sur des thèmes comme notamment la représentation des Tutsis et les stéréotypes attachés aux Tutsis. Et en fait, on a été très surpris quand on a fait cette séquence de voir à quel point on glissait très très vite de ce qui était conçu par elle comme un stéréotype, c'est-à-dire une représentation infondée, vers ce qu'elle considérait comme encore des représentations fondées, en fait. C'est de se demander si le critère de la finesse de la peau, voilà, il était valable ou pas, ou si... voilà. Et donc, on est arrivé assez vite, finalement, vers des choses qui restent encore très ancrées chez elle. Ouais.
Est-ce que le fait que les femmes aient participé de manière significative au massacre, je crois que sur 35 000 prisonniers incarcérés pour génocide, il y a 2 200 femmes, c'est bien ça? Est-ce que ce fait a joué un rôle dans la nature même de ce génocide de 1994 au sein même des familles?
Alors, je pense que effectivement, statistiquement, la participation des femmes au génocide a toujours été minimisée, c'est-à-dire qu'elles sont faiblement représentées dans l'espace carcéral. Dans un premier temps, au moment de la collecte d'informations qui a été engagée au Rwanda au cours de la préparation des procès des tribunaux Gacaca, les femmes étaient assez faiblement représentées également. Pour une raison qui m'apparaît aujourd'hui assez simple, c'est qu'elles ne se figuraient pas ce qu'elles avaient fait comme un crime. En particulier, tous les crimes de délation, pour elles, n'étaient que des incidents. Mais finalement, quand on observe d'un peu plus près, donc aujourd'hui, les crimes pour lesquels les femmes ont été condamnées relèvent en grande majorité de crimes s'apparentant à des formes de délation, de complicité, soit elles ont trahi une personne, elles ont livré une personne qu'elles cachaient, soit elles ont débusqué en allant voler du manioc ou du sorgho, elles ont trouvé quelqu'un dans un champ, elles ont appelé les tueurs. Donc il y a un terme qui revient systématiquement quand on demande aux femmes ce qu'elles ont fait. Je pourrais pas vous citer des chiffres, mais ça représente, je pense, ces crimes-là, à peu près 80% des crimes qui ont été commis par les femmes et pour lesquels elles ont été condamnées. Il y a un terme qui revient souvent, qui est kuvuzinduru, en kinyarwanda, ça veut dire faire du bruit. Donc la raison pour laquelle on ne voyait pas cette participation, c'est que ça s'inscrivait dans, finalement, une dynamique sociale qui préexistait même au génocide, notamment taper le tambour, etc., lancer des annonces, finalement. Sauf que dans le cas du génocide des Tutsis, ces actes ont été décisifs dans la mise en œuvre des massacres à l'échelle locale. C'est-à-dire que des gens qui, finalement, soit avaient trouvé des refuges, soit se cachaient dans un champ, on finit par être massacré avec la complicité et la participation d'une femme. Et je crois que là, les tribunaux Gacaca ont véritablement révélé ce qui, jusqu'à présent, est considéré comme un événement tout à fait marginal du génocide. Et à mon sens, c'est quelque chose de beaucoup plus important et c'est véritablement des actes qui participent à déterminer à la fois la forme particulière du génocide et son efficacité.
De manière, du coup, Valérie Bemeriki joue un rôle encore plus important. Enfin, en tout cas, en étant à la radio, on connaît évidemment son rôle, mais elle symbolise d'une certaine manière cette action des femmes. Dans un appel à la délation, elle est exactement dans ce rôle féminin.
Tout à fait. Alors, elle est à une échelle plus importante, puisque c'est la radio, donc...
Et doublement même, parce qu'elle-même appelait au meurtre, mais elle recevait des coups de fil de femmes qui dénonçaient, parce que sur un barrage, sur telle route, elles avaient vu passer une voiture, donc elles appelaient la radio qui relayait l'information. Donc elle faisait aussi office de relais dans ce processus-là.
Sans parler, bien sûr, de la responsabilité qu'elle dément dans le film, mais en tout cas, il y a eu elle a été accusée, il y a eu un dossier qui a été ouvert pour son rôle dans la mise à mort de ses voisins. Donc je dirais que Valérie a eu une triple action. Mais effectivement, elle symbolise tout particulièrement ce qu'a été ce Kuvuzi Nduru dans le cadre du génocide.
Comment vous l'expliquez, vous ? Enfin, en tout cas, si vous avez des pistes sur cette présence massive, finalement, sur cette responsabilité. Alors massive, le mot est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas...
Au regard des femmes qui sont aujourd'hui incarcérées, c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'un engagement massif, mais je pense que derrière toutes les femmes qui sont aujourd'hui incarcérées, toutes celles qui ont été condamnées à des crimes qui ont été classés en troisième catégorie, c'est-à-dire la moins importante, qui relevait de la destruction de biens ou du pillage, n'ont pas abouti à des condamnations. Donc finalement, aujourd'hui, on a un résidu de femmes, et du coup, je pense que le caractère massif serait bien plus visible si on pouvait ajouter à celles qui sont aujourd'hui incarcérées toutes celles qui ont pris part à un niveau bien plus secondaire au génocide. Parce que d'une certaine manière, piller
les biens, spolier
les biens, ça fait partie du crime du génocide et c'en est un. Après, comment l'expliquer ? Je crois que s'il fallait le faire, peut-être qu'il ne faudrait pas distinguer la participation des femmes de celle des hommes, et que y a le génocide et la mise à mort des Tutsis apparaissaient comme une nécessité. Et je crois que, de ce point de vue-là, la façon dont nous, on a choisi de le traiter dans Un mot couvert, ça a été de rendre compte de la façon dont, finalement, la violence génocide a pénétré la cellule familiale, et la façon dont certaines femmes ont fait le choix de tuer leurs propres enfants. Donc sans que je sois en mesure aujourd'hui, moi, de dire... combien d'infanticides ont été commis au Rwanda pendant le génocide. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de cas d'infanticides qui sont aujourd'hui identifiables dans l'espace de la prison. Et de femmes d'ailleurs qui font des aveux tardifs. Moi j'ai travaillé avec une femme qui a avoué avoir empoisonné deux de ses enfants à la mort au rat en 2014, donc 20 ans après les faits, ce qui est très tardif. Donc je pense que là on touche à la fois à la difficulté, enfin la notion de culpabilité, je pense qu'elle peut être observée depuis différents points de vue, depuis le point de vue judiciaire, depuis le point de vue moral, et en l'occurrence, elle s'inscrit à la charnière des deux, c'est-à-dire qu'elle estime avoir manqué de chance en ayant finalement été condamnée pour un crime qui ne méritait pas une peine de prison parce qu'elle a perdu ses deux enfants, et en même temps, elle n'a jamais été capable d'avouer ce crime, parce que comme disait Alexandre, là on touche à l'indicible. Je pense qu'il y a un tabou dans toutes les sociétés autour de l'infanticide, et là donc on est à la charnière de ces deux impossibilités à dire.
Je vous remercie, Alexandre Westphal et Violaine Barduc, d'être venus. Je rappelle que votre film à mon couvert donc, va être projeté dans différents festivals. Je vous remercie.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.